Mais il connaît pas Raoul, ce mec. Il va avoir un réveil pénible.
Les tontons.
J'ai décidé de dissoudre l'Assemblée nationale.
Oh merde !
Les tontons.
La France est un des rares pays au monde à n'avoir jamais cédé à la tentation totalitaire.
Flingue.
L'ironie du primate. Humour Louis-Philippard, le sarcasme prud'homesque. Mais vos opinions sur la musique moderne et sur l'art en général, je vous conseille de ne les utiliser qu'en suppositoire. Voilà, et encore pour enfants.
Oh, ça va atomiser. C'est l'émission des tontons flingueurs.
Bonjour à toutes et à tous. Salut Marie.
Bonjour Gilles
derrière la vitre.
Bonjour Gilles.
Bonjour.
Gilles Margeron, précisons-le, qui nous fait la technique aujourd'hui.
Et oui, il y a c'est deux passé. Gilles. Hein,
voilà.
Mélangeons pas.
Ne mélangeons surtout pas. Surtout pas. Vous êtes bien sur les tontons flingueurs. Vous n'êtes pas en direct. Cette émission a été enregistrée il y a quelques jours puisque Gilles nous a fait le plaisir de partir en voyage. Donc... il est toujours là. On ne peut pas dire ça. Bon. Donc cette émission enregistrée, c'est comme la petite série qu'on est en train de vous préparer, c'est-à-dire des émissions thématiques sur lesquelles on ne parlera pas forcément de l'actualité, mais où on va plutôt s'intéresser à des sujets que justement on n'a pas le temps de développer d'habitude, donc c'est une heure sur un sujet. Ne vous téléphonez donc pas, et puis mais vous allez voir, c'est sympa.
Ne vous téléphonez donc pas.
Vous ne téléphonez, je dis vous ne téléphonez donc pas.
Non, vous faites attention à ne pas vous téléphoner, les gars.
Vous n'appelez pas le 05 65 49 29 94.
Mais vous pouvez envoyer des emails.
Absolument, sur quel site? Sur www.
Ah bah accueil, radiosaintafrique.com.
Non, vous allez sur www.radiosaintafrique.com, voilà.
Non, mais je donnais l'email direct.
Voilà, non, mais non, ils vont sur la page des tontons, ils mettent leurs commentaires, c'est vachement mieux.
Super.
Bon, voilà. Aujourd'hui, on va parler du groupe. Pourquoi on va parler du groupe? Parce que c'est quelque chose, quand même, dans les médias, on parle beaucoup des indignés, on parle de Facebook, qui est un autre groupe. Voilà, les groupes, c'est quelque chose, finalement, qu'on pensait disparu. On parlait de la fin, un petit peu, des luttes collectives, on sentait la difficulté des syndicats à proposer un petit peu de renouvellement à leur fonctionnement, IRAM. Alors, on s'est dit, finalement, voilà, c'est la fin. Les gens sont de plus en plus, la phrase qu'on entend partout, les gens sont de plus en plus individualistes.
Égoïstes.
Et donc, la notion de groupe, c'est terminé. Et on a eu envie de se pencher un petit peu là-dessus pour voir ce qu'il en était d'une manière générale. Voilà, le groupe, c'est quoi aujourd'hui? C'est la thématique de cette émission. On va commencer tout de suite avec celui peut-être que vous connaissez le mieux, qui est le groupe associatif, parce que c'est ce qui va venir tout de suite à l'esprit de tout le monde, le groupe, l'association. Rappelons quand même, avant de parler de l'association, qu'il y a des luttes, hein, il y a des luttes avec les indignés, on vient de le dire, mais il y a des réseaux sociaux, il y a des syndicats, il y a des lobbies qui sont des groupes, il y a les groupes dans les écoles, il y a des groupes de musique, des groupes de pression, donc on va essayer de pas rester que sur l'association. Mais
il y a des groupes de musique aussi.
Des groupes de musique, voilà, c'est ça. On va essayer de vous parler tout de suite du plus évident, qui est l'association. Comme ça, on pourra l'oublier un petit peu après. Hein. C'est un choix qu'on a fait au niveau de la rédaction. Alors, l'association, ça veut tout dire et pas grand-chose. C'est-à-dire que par définition, on s'associe pour faire des choses en commun. Est-ce que c'est obligatoirement légal? Tout le monde a dans la tête, évidemment, la notion d'association de 1901. Et l'association de 1901, tout le monde a intégré un concept, l'association sans but lucratif. Et tout le monde plonge pieds joints dans cette espèce, je dirais, de raccourci. C'est pas tout à fait ça. D'abord, l'association, avant d'être de 1901, elle découle de la liberté de chaque individu de se regrouper avec un tiers, d'une façon pas forcément officielle, pour mener ensemble des actions ou des pensées communes.
Voilà, et c'est relativement récent, tu le notais quand on a préparé, c'est que même après la Révolution française, ils n'avaient pas franchement prévu ça, alors que c'était quand même quelque chose d'assez collectif, ça s'est codifié que bien après.
Ah oui, tout à fait, ça démarre. L'association, alors, cette association là où on se réunit sans être officialisé, si on peut utiliser ce terme, c'est-à-dire sans être inscrit dans un registre, sans avoir un compte bancaire ou sans avoir même de vocation financière, des statuts, ainsi de suite, c'est quelque chose de parfaitement légal qui s'appelle l'association de faits. Et c'est fondamental parce que c'est, encore une fois, c'est rattaché directement à la démocratie, à notre liberté de se regrouper. On pourra préciser, quand même glisser peut-être comme ça pour l'anecdote, qu'on pourrait presque rendre inconstitutionnelle la loi de Sarkozy sur le regroupement dans les cages d'escalier parce qu'elle va à l'encontre de l'association de faits, du droit de se regrouper tant qu'on n'a pas un agissement illégal, bien entendu.
On a le droit de se regrouper, sauf si on a la casquette à l'envers et qu'on part vers l'an. C'est Nadine Morano qui a dit ça.
Ouais.
Non, mais c'est intéressant ce que tu dis, parce que donc le groupe aujourd'hui, on va parler des différents groupes et de la façon et des associations et des autres groupes, mais ce que tu rappelles, c'est que le groupe avant tout, c'est pas dans le cadre d'une loi, parce qu'on
c'est
est quand même
le pays, loi, voilà, c'est ça.
Le pays où il y a le plus de lois au monde. On peut être un groupe avant d'être officialisé.
Voilà, c'est ça. Voilà. C'est ça. Alors en termes, on va dire un petit peu plus officiels, c'est une association non déclarée, hein, sans personne morale. Elle n'a pas de capacité juridique, l'association de fait. C'est-à-dire qu'on peut se regrouper avec des copains en disant ouais, mais là, ça me plaît pas. Par contre, on a quand même le droit d'engager devant un juge administratif des recours, entre autres des recours pour excès de pouvoir, pour les contester la légalité d'un acte administratif, par exemple. Et c'est très important de rappeler ça, parce que ça rappelle à chaque citoyen qui se demande toute la journée qu'est-ce que je peux faire, ça me plaît pas, ça me va pas, de lui dire il n'y a pas forcément besoin d'une structure officielle pour contester. Déjà, ça, c'est fondamental.
Dès qu'on est plus de deux, on peut voilà. se regrouper et faire quelque chose et faire bouger un petit peu les lignes. C'est ce que les gens veulent faire en ce moment-là.
Voilà. Alors, Gilles, tu parlais évidemment d'histoire. Alors, dans l'histoire, bon, les hommes et les femmes, en réalité, ont toujours eu besoin de s'associer. Hein. C'est une évidence. Puis la tribu, on pense. Hein. On retrouve en Égypte, à l'époque de la construction des pyramides, des structures qu'on peut considérer quasiment comme des ancêtres d'associations de secours mutuels. C'est-à-dire quand des gars se blessaient, il y avait tout un système qui était mis en place.
Un truc de solidarité.
De solidarité, voilà, c'était déjà l'esprit associatif. De même que la vie économique au Moyen-Âge, ou politique, a évidemment largement reposé sur des formes d'organisation qu'on peut qualifier à caractère associatif. Alors on peut citer les confréries, les monastères, les corporations, les communes. C'est aussi une forme de regroupement, entre guillemets, associatif. Un peu plus tard dans l'histoire, c'était assez drôle parce qu'il fallait une autorisation royale pour constituer une association. Il faut bien comprendre que même après la Déclaration des droits de l'homme, rappelons que c'est en 1789, rien, absolument rien n'était prévu pour les associations. C'est la Constitution française, et c'est seulement en 1848, c'est-à-dire il y a très peu de temps, qui a autorisé la création d'associations. Mais qui l'a interdite. Un an après, elle a dit, bon, on vous autorise. Puis un an après, ils ont dit, oh là là, qu'est-ce qu'on a fait? Ils ont dit, c'est terminé.
Ça fait toujours peur au pouvoir en place. Ouais, ouais, ouais. Dès qu'il y a des groupes, c'est tout de suite des contre-pouvoirs, quelque part. Et ça fait peur à ceux qui ont envie de garder, au contraire, de diviser pour mieux régner.
Bien sûr.
C'est l'inverse, quoi.
Bien sûr. Et puis, je pense, on en reparlera, mais je pense qu'au départ, il y avait aussi, dans cette idée d'autoriser ça, l'idée de peut-être de dire, mais si les gens officialisent leur démarche, on les contrôlera mieux.
Ah, bien sûr.
Ah, c'est vachement pratique. Bah,
ils vont déposer des statuts, on va avoir des contacts, on va savoir qui fait quoi, le président, le trésorier, le machin, le brother, bonjour.
Un responsable moral et un responsable juridique.
Absolument, qu'on puisse citer en justice quelqu'un qui représente, effectivement.
Voilà, c'est ça. Alors, on se rend compte donc, que la loi de 1901, elle n'est pas tombée comme ça, elle n'est pas arrivée comme ça. C'est donc une première loi de 1875 qui a permis la création d'associations. Mais alors, ce qui est très drôle, vous allez voir, ils ont permis la création d'associations en vue de l'organisation de l'enseignement supérieur. Donc quelque part pour se substituer à l'État, disons les choses concrètement. Hein. Et puis après, c'est une loi de 1898 qui a permis la création des associations de secours mutuels. Tiens, encore pour se substituer à l'État. Donc on se rend compte au fur et à mesure que l'on regarde un petit peu l'historique, qu'en réalité l'association dans un premier temps n'a été validée et autorisée que pour permettre à l'État, j'ai presque envie de dire, de se défausser de ses rôles.
Oui, ou de pallier à ses carences, c'est un peu ça. Hein.
C'est peut-être ça.
Tout ce qui est mutualisation, le mutualisme, tout ça est né de carences. Qui existait, l'État ne pensant en général qu'à sa gueule et pas trop à faire le bonheur du peuple, comme ils le disent souvent, mais ils le font rarement.
On va se rendre compte, finalement, c'est très libéral quelque part comme mesure, si on réfléchit bien au...
Mais au sens noble.
Au sens noble, hein, dans le sens noble.
Ben oui, mais ouais. Tout ce qui touche, ils le transforment en caca, et donc ben voilà. le libéralisme, ils en ont fait une vraie saloperie.
Oui,
quoi.
Mais alors, quand même, là où c'est, on y reviendra plus tard, paradoxal, c'est que l'État... Et c'est quand même le groupe, hein.
Bah, l'État, c'est nous. Sorti de c'est la formule de la Révolution. L'État, c'est nous, parce qu'on est en République. Ça n'a pas toujours été le cas, quoi, quand même. Hein. Res publica, la chose publique, machin, etc. Le peuple.
Eh oui. Donc la loi de 1901, elle arrive là-dessus. Et puis elle dit, voilà, la liberté pour tout citoyen d'être ou non membre d'une association. Alors, pour faire une association de loi 1901, si parmi vous, il y en a qui n'ont jamais trop flirté avec le milieu associatif, qui ont des projets et puis qui ont
c'est
envie de s'y mettre,
hein,
il peut y en a, bon, voilà,
mais c'est, en France, on est le pays où il y a le plus d'associations et c'est un peu une exception française.
Ah
hein.
Oui, on verra le chiffre dans deux minutes, on va voir, oui, c'est un peu une exception française. Et d'ailleurs, c'est quand même, on le verra aussi dans le courant de cette émission, très très lié avec notre organisation démocratique. Hein. Il n'y a pas beaucoup de pays forcément où ça peut se passer comme ça. Alors, pour monter une association de 1901, si vous débarquez, vous avez vraiment envie, vous avez un petit projet sympa, collectif, il faut deux personnes minimum. il faut avoir un autre but que de partager des bénéfices. Alors à ne pas confondre avec le sans but lucratif, parce que tout le monde se fait avoir. Une association de 1901 n'est pas forcément sans but lucratif. Par contre, elle a une obligation, c'est de réinvestir les bénéfices dans l'objet de l'association.
Bien sûr. Non, mais le lucre, hein, pris au sens étymologique, si tu veux, c'est se remplir les poches, c'est partager les bénéfices.
Voilà, ce n'est pas le cas. Hein, voilà.
Et on peut faire des excédents dans une association dans la mesure où, effectivement, on augmente les salaires, on embauche des gens ou on rachète du matériel.
Voilà, bah, par exemple. Alors, contrairement à ce qu'on pourrait croire, l'association n'a pas besoin d'être déclarée. Hein, on est bien d'accord. Il n'est pas obligatoire que l'association soit administrée par un bureau ou par un conseil d'administration. Un mineur non émancipé peut adhérer à une association et être élu au conseil d'administration. Une association peut produire des bénéfices, mais leur usage est réglementé. Une association peut fonctionner sur le mode horizontal, et on va en parler beaucoup dans cette émission du mode horizontal. C'est un concept relativement intéressant.
Ouais, moi, je préfère l'horizontal.
Bien, voyons. Il n'est pas nécessaire.
C'est parce que ça y est, un peu vieux maintenant, Gilles, c'est pour ça. Hein.
Ouais, non, mais c'est une position agréable.
Oui, c'est reposant.
On précise tout de suite aux auditrices et auditeurs ce qu'on appelle le mode horizontal, c'est le contraire de la structure hiérarchisée.
C'est le missionnaire.
C'est le contraire de la structure hiérarchisée, tout simplement, avec un président, un trésorier. Voilà, grosso modo, il faut quand même un responsable face à la loi, un administrateur, quelque chose. Enfin, bon, les chiffres, vite fait, nombre de grandes associations qui existent aujourd'hui en France ont été créées au début du 20e, logique. Beaucoup, ça veut dire quand même que la loi est de 1901, donc forcément, ça a été créé au début du 20e. Beaucoup d'associations ont survécu ou se sont reconstituées dans la clandestinité pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et ça a été un point très important de l'organisation de la résistance, quand même. Le mouvement a pris un nouvel essor après la libération. Dans la jeunesse, la protection de l'enfance, les sports, la culture et l'éducation populaire. Plus d'associations ont été créées dans les 30 dernières années que depuis 1901. Et aujourd'hui, on estime, pour vous donner les derniers chiffres, 1 million d'associations en activité, 70 000 créations par an, ce qui est hallucinant, et 1 600 000 salariés. On verra le poids dans le secteur économique.
Ouais, on peut même, enfin... c'est des chiffres minimum, oui. Minimum, hein, au niveau des, notamment des embauches et tout ça, des voilà. Salariés, hein, c'est plus que ça, mais bon.
Alors c'est quand même intéressant vite fait de revenir sur les secteurs, parce que faut comprendre quand même pourquoi, dans quel secteur, le secteur culturel. Voilà, un quart de création des nouvelles associations, c'est les jeunes, c'est le sport, 15% des créations nouvelles en deuxième position. Le culturel et le sport, le classique, ce qu'on retrouve par exemple à Saint-Afrique. On peut citer par exemple, je crois, si je ne dis pas de bêtises, il y a quasiment 70 associations à Saint-Afrique, 35 dans le sport, 35 dans la culture, grosso modo aussi, ça n'a pas trop varié depuis 10 ans.
Oui, c'est dans ces eaux-là.
C'est dans ces eaux-là. Donc voilà, on a parlé du groupe.
Et le reste, c'est sans doute dans la bouffe, hein, je pense. Hein.
Alors la suite, c'est
la
santé.
La bouffe, mais ça peut être les femmes de gendarmes, ça peut être. C'est assez rigolo. Hein. On passe à plus de 100 associations si on va un petit peu dans les coins.
Ah oui, bien sûr. Après, le deuxième secteur, c'est la santé et l'action sociale. Et après, c'est l'éducation, formation, logement. Voilà, grosso modo, on a fait un petit peu le tour du secteur associatif. Pourquoi ? Parce que c'est le groupe le plus officiel et le plus évident. Donc on va pouvoir maintenant se consacrer au groupe
nous,
ça c'est fait, au groupe qui nous intresse beaucoup plus, qui sont...
Je voulais poser une question quand même, puisque quand même Radio Saint-Af est groupé, c'est pas du tout Radio Saint-Af que je vise. Mais c'est intéressant, donc une association, comme tu l'as soulevé, qui n'est... à but, pas confondre le lucratif et de faire de l'argent qui est reversé. À quel moment une association qui va pas avoir des visées très humanistes, c'est l'inverse. Ouais. À quel moment ça peut être contrôlé? Genre moi je fais une petite association pour faire de la thune. Hein, j'ai pas de.
Ouais, c'est ce qu'on appelle demain, les faunés, ça existe. Ouais.
Et demain, mon association, j'arrive parce que je suis super sympa. Tiens, est-ce que par exemple les gars du cancer là, c'était des associations?
Ouais.
Eh ben demain, je me verse un salaire de 10 000 euros parce que j'ai su recruter des gens. Ouais. Quelle est la méthode?
Ça, c'est l'effet pervers. Alors,
c'est l'effet
pervers. Il faut savoir qu'au-dessus d'un budget de 200 000 euros, tu es obligé d'avoir un commissaire aux comptes. Et à partir de ce moment-là, tu es
archi contrôlé. C'est la limite fiscale.
Et la limite, c'est aussi à partir du moment, par exemple, Radio Saint-Afrique reçoit des subventions, elle est tenue chaque année de passer devant un expert comptable et d'avoir un bilan... tamponné, accrédité
validé
par cet expert.
Par un expert.
Voilà. Ouais, ouais. Voilà. Donc ça limite quand même les choses. Mais on s'aperçoit, et tu as raison de mettre le doigt là-dessus, que de nombreux clubs de foot qui ont fait des fortunes, qui rachetaient des joueurs à des prix incroyables, des banques...
Fonctionnent en 1901.
Des trucs fonctionnaient, parce que maintenant, ça a été quand même un peu limité depuis l'an 2000, ils ont fait un peu le ménage.
Oui, avec les dessous de table qu'on imagine...
Absolument, il y avait des trucs énormes qui fonctionnaient en loi 1901, et là, c'était l'abus total. Mais normalement, ça doit être contrôlé.
Non, mais c'est bien que tu poses cette question, effectivement, parce qu'on sait tous, et particulièrement parce qu'au niveau local, il y a une vie, par rapport au nombre d'habitants, extrêmement riche au niveau social, au niveau associatif ici. Et quand on regarde, qu'on analyse un petit peu les associations, bon ben, je crois que c'est la même proportion que partout, c'est le même fonctionnement que d'une manière générale, on y reviendra aussi tout à l'heure, du groupe humain. Il y en a qui se sclérosent, il y en a qui disparaissent, il y en a qui se reconstruisent, il y en a des saines, il y en a des pas saines. On va retrouver à peu près, à mon avis, la même proportion d'excès, de déviance ou de choses bien que dans le business, que dans...
Oui, dans la société civile en général.
Et c'est ça qui nous intéresse dans cette émission, justement, c'est de parler du groupe en tant que regroupement d'individus et surtout de fonctionnement de l'homme. Finalement, est-ce que l'homme, la vraie question, on voit qu'on s'associe depuis des générations, on se rend compte que la troisième partie de cette émission, elle s'intéressera à débattre de ça, justement, d'essayer de comprendre est-ce que l'homme, finalement, a évolué dans sa capacité de regroupement, est-ce qu'il a évolué dans sa... Est-ce qu'en tant que groupe, l'homme est plus intelligent qu'avant, ou est-ce que, finalement, on a toujours les mêmes limites? Est-ce qu'on est toujours bloqué par les mêmes choses?
D'où on vient, on est des primates à l'origine, et les primates vivent en bande, il y a très peu de solitaires.
Ça remonte même plus loin que ça. Mais
voilà, sauf ceux qui sont exclus du groupe pour X raisons, parce qu'ils n'ont pas respecté les règles du groupe ou autre. Mais sinon, on le voit dans la nature, que ce soit les babouins ou je ne sais quoi, vivent en groupe.
Ça fait longtemps que tu ne nous as pas parlé des bonobos.
J'ai évité de parler des bonobos, et voilà, il faut que tu en parles.
Avant d'attaquer notre premier débat tout de suite, enfin notre première... on va en débattre, si, des différents groupes, chacun va donner un petit peu son avis. On fait une toute petite précision sociologique. Alors très souvent, quand on dit ce terme-là, quand on utilise le terme sociologique, ça fait un petit peu peur à tout le monde, parce qu'en général, c'est très très chiant. Là, le groupe, voilà, l'autre il commence, il anticipe, et il a bien fait. La sociologie, on va pas trop... On s'est quand même penché, nous, sur la sociologie du groupe, parce qu'on peut pas parler de groupe. Je veux dire, tous les gens qui ont approché un minimum la sociologie ou l'ethnologie, ainsi de suite, savent très bien qu'on ne peut pas parler du sujet du groupe sans poser l'image des deux groupes principaux que l'on rencontre dans sa vie, parce que nous sommes tous pareils là-dessus. On a beau s'imaginer très intelligent ou très bête, on a tous le même parcours. On a ce que la sociologie appelle le groupe primaire. C'est très simple, c'est ceux qui vont nous donner nos premiers acquis. C'est donc la famille, le cercle proche. Ça, c'est ce qu'on appelle le groupe primaire en sociologie. Et juste derrière, on sort de ce groupe primaire pour s'émanciper et on arrive dans un groupe secondaire qui est en général nos expériences d'adolescents. Et le groupe secondaire est forcément totalement opposé, antinomique avec le groupe primaire. C'est-à-dire que c'est là qu'on va s'efforcer pour se construire, d'oublier tout ce qu'on a appris dans le groupe primaire. Nous sommes d'un fonctionnement extrêmement basique. Le groupe primaire nous donne les bases, le groupe secondaire nous apprend à les contredire, et quand on arrive à la maturité, on est normalement à cheval entre les deux.
Ben juste avant, il y a l'adolescence, qui est un moment conflictuel que tout le monde connaît bien.
Vous voyez que la sociologie, c'est pas si chiant que ça. Mais c'est tout simple. Il suffit de pas le... T'es vache, parce que j'avais dit que je le lirais pas, je l'ai pas lu et tu m'allumes, quoi. Alors, notre premier débat, je vous rappelle que vous êtes sur les tontons flingueurs, que nous avons attaqué cette émission il y a 20 minutes, sur le groupe et sur ce qu'il en reste, et on va effectivement commencer tout de suite les différents groupes. Alors, commençons à tout sienneur, à tout vieux, tout honneur, les groupes militants. Alors, nous avons à la table...
Qu'on peut appeler limitants.
Limitants, voilà. Les groupes limitants. Les groupes limitants. Gilles, dans la sociologie de groupe, évidemment, syndicat, parti, ça paraît évident. Après, l'association, c'est quand même le groupe principal dans l'organisation de la société, non?
Dès qu'on veut faire un petit pas de côté parce qu'on a un problème dans son job ou n'importe quoi, on a tendance à s'associer, à essayer de trouver des gens qui pensent un peu comme vous. Et puis, ensemble, on est plus fort. L'oignon faisant la soupe et l'union faisant la force, c'est bien connu. Hein? Ah ouais, là, t'as vu un peu.
Ce sont les vacances, quand même. Hein?
J'ai pas préparé. Non, mais c'est assez classique, quoi. On se groupe, justement. Souvent, tu parlais de solidarité. Quand il y a des problèmes, tu remontais aux pyramides. C'est sûr qu'ils marchaient à coups de fouet à l'époque et ils avaient intérêt à être solidaires et à se grouper pour pouvoir se soutenir dans l'adversité, dans le malheur. C'est quand même souvent ça.
Puis le taf, ils avaient intérêt à avoir des mutuelles aussi.
Voilà. Ils n'étaient pas très assurés à l'époque. Non, toujours est-il que c'est un réflexe, à part quelques rares exceptions. Hein, le loup solitaire de la meute qui choisit aussi sa solitude pour X raisons. Hein. En France, on est quand même moins groupe que les anglo-saxons, je pense. Eux, ils ont une autre façon de voir le groupe, plus club, etc. Nous, c'est quand même des individualités qui se mettent ensemble pour pouvoir arriver à quelque chose, quoi.
Alors, les syndicats, ils en sont où aujourd'hui, ils sont en forme? C'est un groupe qui fonctionne ou c'est le bordel?
Les syndicats.
Les syndicats.
No comprendo.
Marie, vas-y, t'étais plus volubile pendant la préparation. Hein.
Alors,
non, pas sur ce sujet-là, c'est comme...
Le groupe syndical.
Ça va être comme la religion, arrêtons de tirer sur l'ambulance.
Non mais attends, voilà, ah, d'accord, ok. Non mais poussons un peu plus loin
alors,
le délire.
Moi je pense qu'il y a, pour ce qu'on appelle les acquis sociaux et tout ça, si on part tous en vacances, c'est quand même pas un hasard, avant ça n'existait pas.
Ben oui.
Et il y a encore plein de pays où ça n'existe pas. Si on est arrivé à des salaires minimums, à des choses comme ça, c'est grâce à des gens qui ont...
Bien sûr, oui.
Certains sont morts même pour ça, donc respect. Sauf que, disons qu'il y a une dégénérescence quelque part et que les syndicats à l'heure actuelle se sont fait un peu acheter. Les responsables syndicaux sont des gens qui ont des bons salaires, qui sont bien dans leur petit
voiture
bureau,
de fonction,
voiture de fonction, avantages et tout. Il y a eu des scandales du genre FO avec le monsieur qui avait les bretelles et le gros cigare que je ne citerai pas, mais qui a eu des problèmes pour, comme Jacques Chirac, pour des emplois déguisés, etc. On voit que même au sein des syndicats, eh bien, le pouvoir corrompt et arrivé à un certain stade, ils se font acheter. Les groupements de patrons, par exemple MEDEF et compagnie, ont constitué parfois des caisses noires pour pouvoir acheter les syndicats. Hein. Il y a eu un scandale de l'UMM, là, de le machin de la métallurgie. Après 68, ça leur a foutu les jetons, 68, très, très fort, et ils ont fait des trésors de guerre pour pouvoir acheter les syndicats, quelles que soient les tendances. Hein. C'est-à-dire, c'est des gens de droite qui achetaient des gens de gauche,
mais
etc.
Mais ce qui est possible... Que le gars se fasse acheter, le chef, qui pour moi, on y reviendra tout à l'heure, est absolument nécessaire dans tout groupe, sinon c'est n'importe quoi, mais on en reparlera, on se castagnera
ouais, dans,
si
la dernière,
ultérieurement.
Dans la dernière partie. Ouais.
C'est terrible
ouais.
Pour une libertaire de parler comme ça, mais enfin on en reparlera.
On en reparlera, ouais.
Écoute, je sais pas, tu mets des définitions, moi j'ai pas de définition dans mes pensées.
Enchaîne.
Mais, l'écoute pas.
Non, je ne l'écoute pas, mais c'est difficile parce que quand même, hein, il parle. C'est surtout après, un chef, ça se corrompt parce que derrière aussi ses cellules de base n'ont pas forcément la motivation qu'elles avaient avant. Et on va parler des différents groupes, mais pour moi, c'est la clé. C'était le sujet de l'émission.
Tu es en train de l'anticiper.
Tu
es en train d'anticiper un petit peu la dernière partie. On va commencer par poser les différents groupes. Et je pense qu'avant d'analyser effectivement l'organisation ou les compétences ou les incompétences ou les limites de l'homme dans sa capacité à se regrouper sans tomber dans un certain nombre de pièges personnels ou de groupes, il est quand même intéressant de poser l'ensemble des groupes parce qu'ils ont des différences autres que celles-là. Et on peut par exemple citer le fait qu'un syndicat ou un parti politique fonctionne plus comme un lobby que comme une association 1901 dans l'esprit.
Absolument.
Donc,
c'est un groupe de pression.
C'est un groupe de pression. Donc il faut commencer par distinguer, je pense qu'on peut s'intéresser déjà à l'objectif dès le départ.
Voilà, ça c'est
voilà,
semble bien.
Voilà, l'objectif qui est syndicat-parti, on les a mis dans une catégorie à part parce que, c'est des groupes, on va dire, militants. Et un groupe militant est forcément un groupe de pression, par définition. On est d'accord là-dessus?
Oui, on peut le dire.
Bon. Les groupes officialisés maintenant. Donc les associations 1901. Alors pourquoi on les appelle les groupes officialisés? Parce qu'on a émis l'idée dans cette première partie que à partir du moment où on nous avait offert ce droit de nous regrouper en nous demandant un responsable moral, un responsable juridique, un responsable financier et ainsi de suite, c'est que c'était quand même un petit peu avec l'objectif de nous contrôler. Alors dans les associations 1901, donc par exemple l'exemple de la radio, prenons le club sportif, ainsi de suite. Est-ce que ce groupe-là, aujourd'hui, est dans un fonctionnement optimal ou est-ce qu'il est dans un fonctionnement déclinant? Je parle en termes d'organisation, Gilles.
En ce moment, enfin, je ne vais pas parler
spécialement
de la radio, mais les associations, même si Sainte-Afrique est très riche en milieu associatif, on s'aperçoit qu'il y a une perte de vitesse très forte. Ça a marché très fort dans l'adversité, justement. Il y a une trentaine d'années où ici c'était très difficile.
Mais là tu parles du militant, là. Ouais.
Voilà, c'était très difficile de faire quoi que ce soit, même sans militer particulièrement, mais pour avoir un concert, pour avoir le minimum de ce que n'importe quel individu demande, de pouvoir se cultiver, d'avoir un club de théâtre et tout, c'était le désert total, ou presque. Il y avait une assoce qui en bavait pas mal. Et disons que pendant ces 30 dernières années.
La cité, c'est Lagrange, non?
Non, c'est l'ASSA.
L'ASSA
a été l'une des premières associations militantes. Là, c'était vraiment des militants purs et durs qui militaient pour de la culture dans le sud-américain.
Mais oui, mais parce que pour militer, Gilles, il faudra avoir quelque chose contre lequel se dresser.
Si tu
n'as pas un ennemi... pas d'ennemis,
pas vraiment
se dresser ou à faire progresser, c'est pas forcément une notion d'adversité là, c'est justement ce qui change.
Enfin, c'est
mieux, c'est beaucoup mieux quand t'as un ennemi, et on en reparlera en deuxième partie, un ennemi contre lequel te castagner.
Mais là, ça, tu es en train. Naturel. Marie, tu es en train.
C'est la partie 2, je déborde sur les pages.
Non, c'est pas du tout ça. C'est que tu es en train.
Ça me va pas du tout.
C'est pas du tout ça. C'est pas du tout ça. C'est que tu aurais pu dire cette chose quand on était dans le sujet, c'est-à-dire il y a à peu près deux minutes en avant, et quand on parlait des groupes militants, c'est-à-dire syndicats ou partis. Là, on est passé dans les groupes officialisés, entre guillemets, et les associations 1901, c'est-à-dire qui très souvent ne sont pas forcément militantes, mais qui sont là avec une vocation de proposer du divertissement, de la culture, du loisir. Alors, pose quand même la question, Gilles, tu disais il y a deux minutes que c'était un peu déclinant.
Et j'allais dire, justement, si ça a été très vivant à un moment donné, forcément les gens s'usent, vieillissent, partent. Voilà. Etc. Donc il y a du brassage et militer au bout d'un moment, c'est usant aussi, et quand on a acquis quelque chose, je prends l'exemple de Sainte-Afrique, on est passé d'un désert culturel à quelque chose qui est relativement vivant, et au bout d'un moment les êtres humains sont faits comme ça, ils ont acquis un petit pouvoir aussi quelque part,
ça se sclérose,
et puis les bonnes volontés, les bénévoles disparaissent, et c'est devenu extrêmement dur. Il y a une crise associative.
Parce qu'on n'a pas un problème de génération, là.
Mais voilà, il y a un problème de génération, et c'est devenu ça. Alors, on ramène la crise financière là-dessus. C'est devenu un luxe d'être bénévole dans une association. Faut du temps et faut un peu de fric, quand même. Et voilà. Et donc, ça devient plus difficile, plus dur à l'heure actuelle.
Mais on a fabriqué une génération, ça a commencé à la nôtre. Moi, j'ai 40 ans. Gilles, t'es pas loin non plus. Bon, Gilles Margeron, on n'en parle plus. Lui, c'est le
canonique,
déambulateur. Mais sinon, nous, on fait déjà partie d'une génération où on est une génération de désespérés. C'est minable, l'engagement.
Je suis absolument pas d'accord. Nous, c'était la génération Touche pas à mon pote. Attends, on était plein fer debout à Paris pendant 20 ans, pendant 10 ans.
Ouais, il y a eu Touche pas à mon pote, c'est vrai. Et à part Touche pas à mon pote, il y a eu
l'élection de Mitterrand en 80, il y en a eu d'autres, le militant.
Mais l'élection de Mitterrand en 80, moi je parlerai même pas de ça. Quel rapport avec
déjà j'ai 5 ans de plus que toi, l'ami.
Ah oui, c'est vrai. Bon, voilà. C'est vrai.
Moi, l'élection de Mitterrand en 80, c'est le début de ma vie militante intellectuellement, parce que j'étais pas en âge de voter. Je peux te dire que ça a été un vrai bouleversement de voir débarquer les radios libres, de voir ce que Jacques Lang a mis en place à Paris.
Il y avait avant.
Ah ouais.
Marie, t'as pas connu.
Alors je suis un peu trop jeune, moi. On va dire que j'ai vu les gamins de mon âge à 20 ans qui faisaient des manifs. C'était déjà bien, ils en faisaient, remarque, tu me diras. C'était une tristesse. C'est pas de la faute de ma génération. C'est parce que déjà, on nous a dit crise du pétrole. Moi, je suis né en 71. C'est de la crise du pétrole, c'est déjà foutu. Et alors, la génération, les plus jeunes, c'est de pire en pire. Parce qu'il n'y a pas. Leur but, il est je veux avoir ma petite baraque, je veux avoir ma petite famille, je veux avoir mon petit boulot. Et c'est pas de leur faute, c'est parce qu'on leur a.
Ouais, mais tu as partiellement raison. Mais ne généralise pas. Moi, je connais plein de jeunes.
Mais bien sûr, heureusement.
Qui bougent, qui se regroupent, qui font des trucs et qui se font pas forcément voir, etc. Mais tu prends les.
Là, on tombe dans un discours générationnel, là, qui je trouve, moi, je trouve archaïque, grave,
non,
dramatiquement conservateur. C'est une horreur.
Conservateur ? Ça va pas du tout, non. C'est que, attends, au contraire, voilà, oui, tu dis ça pour m'agacer.
Mais non. Mais
on a fabriqué cette espèce de lavasse. C'est pas individuellement. Individuellement, les gens, ils sont toujours aussi bien. Les gars des années 70, je suis sûre que individuellement, les mecs d'aujourd'hui qui ont 20 ans, ils sont aussi. C'est les mêmes. Mais sauf que le contexte. C'est
voilà,
un contexte
voilà.
De lavasse.
Non, le contexte est différent. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, on a essayé de couper les rêves, on a essayé de, au sommet, je dirais, dans les gouvernements, dans l'État, etc., on a essayé de reprendre la bonne loi divisée pour mieux régner, et ça a l'air de rien. Mais par exemple, les lois, que ce soit sur le tabac, que ce soit sur l'alcool, que ce soit des lois qui, soi-disant, sont faites pour faire notre bonheur, arrive à un truc qui est terrible, qui coupe tout lien social. Il y a simplement 15 ans, il y avait énormément d'échanges sud-Aveyron, les gens prenaient leur bagnole, ça partait dans tous les sens, on allait faire la fête à gauche, à droite. C'est terminé parce qu'on est sûr de rencontrer les bleus et de souffler dans le ballon, quoi.
Toutes les associations depuis... Moi, ça fait à peu près 25 ans que j'ai démarré les expériences associatives. Toutes les associations aujourd'hui qui ne sont pas des associations entre guillemets d'utilité publique, qu'elles soient réellement avec le label ou pas, je mets un groupe d'utilité publique, c'est-à-dire qui rendent un service médical ou autre à la population, c'est-à-dire ou d'éducation. Bon, toutes les autres, qu'est-ce qu'elles font ? Elles se sont, sans s'en rendre compte, transformées en fournisseurs de divertissement. Et on a petit à petit une génération qui s'est habituée à consommer l'activité
Et consommer
de l'associatif et consommer l'activité associative sans s'en rendre compte. Ça s'est fait sur la durée en réalité. Et sorti des associations d'intérêt public et des associations militantes, il y a toute une génération de gens qui se sont laissés avoir en disant « Moi, elles disent pas « je vais à la sauce », elles disent « je vais au sport ». Elles s'en foutent que ce soit une association derrière. Elles disent « je... »
Ou même, sans penser à ça, c'est évident pour c'est eux, c'est normal.
C'est un outil de consommation. Et alors, on s'est tous fait avoir, même nous d'ailleurs, entre autres gestionnaires d'associations, pour ceux qui l'ont été. Mais alors aujourd'hui, où ils sont passés tous ces jeunes finalement consommateurs? Est-ce qu'ils ont arrêté le groupe pour autant? Eh bien non. C'est là qu'on voit d'une façon hallucinante les réseaux sociaux prendre le relais d'une façon extraordinaire qu'on pourrait qualifier le réseau social à recréer le groupe de l'individu. C'est-à-dire qu'on peut être totalement indépendante dans les informations qu'on fait passer tout en se donnant l'illusion de faire partie d'un groupe.
C'est ça, l'illusion.
Tout en se faisant l'illusion.
C'est des groupes synthétiques. Hein. C'est vraiment complètement, j'allais dire, inhumain, quelque part. Mais oui. Tous ces réseaux sociaux, que ce soit Facebook ou Twitter, donnent l'illusion d'avoir plein d'amis, d'être connectés, etc. Mais au niveau purement humain, c'est quand même très bidon, à part quelques rares exceptions, quoi.
On ne fera pas faire une émission là-dessus, sur les réseaux sociaux. Bon, moi, j'ai ouvert un compte Facebook à titre professionnel pour voir aussi, d'ailleurs, avec une grosse curiosité entre guillemets journalistique derrière. Je peux vous dire que je l'ai refermé assez rapidement, mais bon, peu importe, c'était très très intéressant d'aller voir. C'est totalement virtuel, à part des pauvres gens qui vont s'épancher parce qu'ils n'ont que ça à faire toute la journée sur ce qu'on appelle le fil direct,
c'est-à-dire
l'endroit où on fait passer ses ressentis. Tiens, j'ai fait caca, je vais mieux. Le reste du temps, les autres sont là pour faire de la promo de certaines activités, donc c'est un outil de diffusion.
Ça a été détourné comme ça, moi aussi j'ai un compte Facebook, mais à titre perso, parce que c'était intéressant au tout départ. Pourquoi? Pour retrouver, par exemple, la copine d'enfance que j'avais croisée à 10 ans, etc. Alors là, ça c'est intéressant, parce qu'effectivement, c'est un moyen, Internet est un moyen de retrouver des gens, si tu as envie que tu les retrouves. Maintenant, aujourd'hui, effectivement, c'est déjà, comme tu l'évoquais, je sens même parler des blogs où on a les épanchements « Ah, bébé a fait caca, bébé a vomi ce matin », c'est lamentable.
C'est de l'onanisme pur.
Ah, mais voilà, c'est de l'onanisme. Je ne sais plus ce que je voulais dire là-dessus. Mais ici, il y a un truc intéressant dans les réseaux sociaux. Ça s'appelle, il y a un terme encore anglais, ça s'appelle le flash mob. C'est-à-dire que quand tu veux... C'est un moyen intéressant, c'est absolument pas... Pour moi, Facebook, c'est nul, c'est pas du tout les copains.
Non, mais pour rassembler les mecs,
par contre,
faire un truc...
Demain, t'as besoin de dire un truc, souvenez-vous de l'action contre les banques.
Voilà.
Une traînée de poudre, paf, quoi. Ça,
d'accord.
C'est intéressant
d'accord.
pour
Bigo,
ça.
Et Bigo, tu peux rassembler, et qui a joué énormément pour les révolutions arabes et tout ça. Quand
ouais, exactement, enfin, voilà. Donc c'est intéressant dans le sens de... Non, mais pour communiquer, c'est très intéressant.
Admettons, sur les réseaux sociaux, enfin, c'est pas trop l'objectif de cette... Mais on ne pouvait pas ne pas l'aborder, parce que les jeunes aujourd'hui, qu'on attendrait, nous, dans les associations, à venir éventuellement prendre des responsabilités. Ils sont dans une notion de groupe individuel.
Absolument.
Où ils font partie d'un immense tout planétaire. Ils, peut-être, je
bien
sais pas...
Bien au chaud devant leur
voilà,
écran.
Voilà. Alors, on revient aux associations de fait un moment, puisqu'il nous reste deux petites minutes avant d'écouter l'ARZAC. Avant l'ARZAC. L'exemple de l'ARZAC 2003, Gilles, il y avait des actions, il y avait des attentes. Quel est le résultat d'une association de fait? Est-ce que l'ARZAC 2003, pour tous les gens du coin qui l'ont vécu, parce que quand même, il y a beaucoup de monde ici qui s'y investit, on en reparle très souvent un peu partout en ville, il y a eu une action extraordinaire qui est une association de fait, c'est-à-dire un groupe qui se réunit sans structure forcément très
de
officielle.
Façon ponctuelle.
300 000 personnes se retrouvent autour, non pas d'une doctrine, parce que c'est là que c'est fort aussi, mais autour de 40 ou 50 doctrines, mais dans un espèce de tout, il y a une association de fait qui se constitue. Ça a généré des attentes. Quels ont été les résultats? Très rapidement, est-ce qu'on peut faire une synthèse des résultats de l'ARZAC 2003?
Oh là là, il faudrait une émission.
Non, très rapidement.
Entière. Très rapidement. Moi, j'ai marché à fond dans
tout
cette
le monde,
histoire.
Ouais.
Pas tout le monde. Non. Mais disons qu'il y a eu des déçus. Il y a des gens qui attendaient beaucoup et qui étaient un petit peu des radicaux, qui auraient aimé que ça soit un nouveau grand soir, quelque part, tu vois, ou un Woodstock extraordinaire, etc. Ça a été quand même 300 000 personnes qui se sont réunis. Il y avait un phénomène qui était national. Il y avait le fait que José Bové était en prison à ce moment-là et que ça a stimulé énormément les gens. Ils étaient prêts à aller le délivrer. Hein. Il y a des gens qui avaient déjà prévu les échelles et tout.
Tu soulèves un truc important. Selon toi, ça veut dire qu'on peut imaginer, alors on n'est pas là pour radicaliser ou dire des choses débiles, mais est-ce qu'on peut éventuellement imaginer que le mouvement, enfin le l'ARZAC 2003, cette association de faits, se soit faite autour d'un gourou, quoi, de José Beauvais, d'une personne forte.
C'était pas uniquement ça, mais c'est, disons que ça a été le truc qui a aggloméré, quoi, hein, qui a permis, c'était au bon moment, voilà, c'était... Et beaucoup auraient voulu que ça se répète, qu'il y ait chaque année ou tous les deux ans et tout, et les gens qui ont participé à ça ont été très intelligents, quelque part, en disant stop, 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 c'est des choses qui peuvent être ponctuelles, ça a été à un moment donné, à partir du moment où on institutionnalise ce genre de choses, ça marche plus, quoi. Hein. C'est... Et puis on tombe dans la répétition, dans la prise de pouvoir, dans le... etc. Donc là, c'était un moment particulier à tous les niveaux. Hein. Mmh. Je vais pas...
C'était assez énorme, ouais.
C'était énorme, mais il y avait un contexte qui était spécial. On a retrouvé sur l'Arzak 2003, on a retrouvé les Kurdes, on a retrouvé les Palestiniens, on a retrouvé enfin, des gens du monde entier qui venaient parler de leur cause, de leur truc.
Tout ça, ça a été très motivé aussi par les forums sociaux, un peu, faut le dire.
Et, hein, par et la musique, parce sociales, qu'il y a quoi. Plein de gens qui sont venus ouais. pour aussi voir des bons groupes et puis fumer des pétards ensemble. Hein. Donc, il ne faut quand même pas se faire d'illusions.
Au-delà du groupe de copains qui se réunit de fait, comme on a vu tout à l'heure, l'association de fées, on se retrouve, on discute ensemble, toutes les semaines, on décide d'aller faire une belote, c'est une association de fées. Là, en l'occurrence, l'Arzak 2003, c'est l'exemple de l'association de fées qu'on peut, à mon avis, très facilement classer en disant c'est valable pour des trucs ponctuels ou pour faire des coups, entre guillemets, mais en général, les associations de fées, au-delà du groupe de copains, sont très rarement des démonstrations de groupes, je dirais,
solides. C'est un rassemblement.
C'est des rassemblements.
Oui, mais c'est voilà. ce que disait Marie, il faut qu'il y ait une adversité voilà. quelque part.
C'est
quoi.
Ça, tu parlais de Beauvais, c'est intéressant. Il y a, alors, au sens tout petit du terme, un martyr ou alors un symbole.
Ça, voilà, c'est on va y revenir, c'est très important. On va se donner rendez-vous, évidemment, après tout de suite, vous dire qu'on n'a pas omis hein, les groupes occultes. Ne pensez pas que tout ce qui est lobby, loge maçonnique ou autres groupes occultes, c'est-à-dire là des groupes qui sont des associations qui ne sont pas de fait, mais qui ont pour tendance ces groupes-là à influer d'une façon spirituelle ou d'une façon organisationnelle sur la société, sont fondamentales dans l'organisation aussi de notre démocratie.
Là, il y a
certaines
grandes
lois, mais c'est un autre sujet, c'est un autre débat. Ce groupe existe, voilà. On va, tout de suite après la musique, on va se retrouver donc avec un débat d'une petite vingtaine de minutes, une belle vingtaine de minutes, avec des questions qui nous paraissent quand même, et on est nombreux à se les poser tous les jours quand on se rencontre. Est-ce qu'on peut encore agir collectivement? Est-ce que le projet collectif, c'est encore quelque chose qui veut dire quelque chose dans notre démocratie? Est-ce que l'intérêt collectif doit passer avant l'intérêt individuel, ou est-ce que peut encore passer avant l'intérêt individuel dans notre société? On discute de tout ça dans 3 minutes. Qu'est-ce que tu nous as préparé, Gilles?
Alors, j'ai mis sur la platine le CD mythique de Georges Brassens, parce que lui, c'était plutôt le contre-exemple de tout ce qu'on vient de dire. C'était un libertaire forcené et qui a une doctrine. Dès qu'on est plus de 3, on est une bande de cons.
Cher monsieur, m'ont-ils dit, vous en êtes un autre, lorsque je refusais de monter dans leur train. Oui, sans doute, mais moi, je fais pas le bon apôtre, moi je n'ai besoin de personne pour en être un. Le pluriel ne vaut rien à l'homme et c'est au con. N'est plus de quatre, on est une bande de cons. Bande à part, sacre bleu, c'est ma règle et j'y tiens. Dans les noms des partants, on verra pas le mien. Dieu que de procession, de monôme, de groupe, que de rassemblement, de cortège divers. Que de ligues, que de cliques, que de meutes, que de troupes. Pour un tel inventaire, il faudrait un prévert. Le pluriel ne vaut rien à l'homme et c'est au con. On est plus de quatre, on est une bande de cons. Bande à part, sacre bleu, c'est ma règle et j'y tiens. Parmi les cris des loups, on n'entend pas le mien. Oui, la cause était noble, était bonne, était belle. Nous étions amoureux, nous l'avons épousée. Nous souhaitions être heureux, tous ensemble, avec elle. Nous étions trop nombreux, nous l'avons défrisée. Le pluriel ne vaut rien à l'homme et c'est au con. On n'est plus de quatre, on est une bande de cons. Bande à part, sacre bleu, c'est ma règle, j'y tiens. Parmi les noms d'élus, on verra pas le mien. Je suis celui qui passe à côté des fanfares et qui chante en sourdine un petit air frondeur. Je dis à ces messieurs que mes notes effarent tout aussi musicien que vous tas de bruiteurs. Le pluriel ne vaut rien à l'homme et si tôt prend. N'est plus de quatre, on est d'une bande de cons. Bande à part sacre bleu, c'est ma règle, j'y tiens. Dans les rangs des pupitres, on verra pas le mien. Pour embrasser la dame, s'il faut se mettre à douze, j'aime mieux m'amuser tout seul, créneau de nom. Je suis celui qui reste à l'écart des partouzes. L'obélisque est-il monolithe, oui ou non? Le pluriel ne vaut rien à l'homme et c'est au con. N'est plus de quatre, on est une bande de cons. Bande à part sacre bleu, c'est ma règle et j'y tiens. Au faisceau des phallus, on verra pas le mien. Pas jaloux pour un sou des morts, des hécatombes. J'espère être assez grand pour m'en aller tout seul. Je ne veux pas qu'on m'aide à descendre à la tombe. Je partage n'importe quoi, pas mon linceul. Le pluriel ne vaut rien à l'homme et c'est au con. On est plus de quatre, on est d'une bande de cons. Bande à part, sacre bleu, c'est ma règle et j'y tiens. Au faisceau des tibias, on verra pas les miens.
Retour, truc, chose.
Ah bah, il y a des bruits.
Bidule,
des
truc. Trucs.
C'est pas du direct, mais il y a
chose,
des trucs,
c'est normal, c'est Julie qui fait la technique, donc on pouvait pas s'attendre à autre chose. Vous êtes de retour sur les tontons flingueurs.
C'est déjà bien que je la fasse. Hein.
Oui, tu l'as faite. Bravo, voilà. Gilles.
Et en plus, je me suis coupé tout à l'heure. Je me suis censuré. J'ai même pas dit con. Hein.
On est une bande de... Et t'as coupé, voilà.
Et oui, au cas où des auditeurs auraient pu croire, on est des bandes de... Que ça veut dire autre chose, des bandes de queue, je sais
non, pas. Non,
des
bandes de cons, c'est ce qu'on voulait
oui,
dire.
Oui.
Hein,
voilà. Ça peut pas être interprété autrement.
J'ai mal mémorisé. J'ai dit, dès qu'on est plus de trois... Parce qu'on est trois dans le studio, c'est pour ça. Au-delà de trois, on est une bande de cons.
Vous verriez comme il est beau derrière sa vitre avec son casque qui fait un peu
hippie,
fun homme, un peu, c'est très très bien. Je vous rappelle donc que vous êtes sur les tontons flingueurs, qu'ils soient jeudi matin, jeudi soir ou samedi après-midi, que vous n'êtes pas en direct parce que c'est une émission enregistrée. On en a fait plein, on s'est fait plaisir cet hiver, on avait envie de traiter quelques sujets, donc on les a mis en boîte et on vous les diffusera au gré du vent et des et puis de la neige. Voilà, tiens, pourquoi on parlerait pas de la neige? Après tout, on aurait pu faire une émission sur la neige pendant une heure.
Non, on fera des émissions sur le poil.
Tu voulais bien en faire une sur le poil.
Non, je veux faire. Non, on fera des émissions sur le poil.
Le poil, c'est très intéressant, le poil. Voilà.
Mais celle d'aujourd'hui, elle ne parle pas de poil, elle parle du
groupe.
Dommage. Celle d'aujourd'hui, elle parle du groupe. Et nous, on a passé, pour ceux d'entre vous qui étaient en ligne, vous en souvenez, on a parlé du groupe. Le groupe, c'est quoi? Est-ce qu'il en reste?
Le
groupe,
voilà.
Le groupe de
ça
poils.
Fait des touffes.
Il paraît qu'aujourd'hui, si on écoute dans les bistrots, tout le monde dit. Non, vous êtes. Si on écoute dans les bistrots aujourd'hui, tout le monde dit « Oh, mais c'est plus possible, les voiles, l'évolution, les gens ils sont trop individualistes. » Et bien, c'est, voilà, notre question aujourd'hui, c'est « Est-ce que les gens sont trop individualistes ?» Ou est-ce qu'on sait faire autrement, surtout ? On attaque la partie débat. La partie débat, elle est assez simple, finalement. La notion de groupe. Voilà, la notion même de groupe. Là, on va rentrer un peu dans la philo, on va essayer de ne pas faire chiant. L'intérêt... Attendez.
Ça va être dur.
Moi, je commence par une question. Faites-moi 20 minutes là-dessus. L'intérêt collectif avant l'intérêt individuel ou la notion de groupe, c'est la somme d'intérêts individuels?
Je penche pour la deuxième un petit peu parce que je suis un individualiste.
T'es un libéral, toi.
Non.
Mais dans le sens positif, pas dans le sens politique.
Je suis quelqu'un d'assez égocentrique, comme beaucoup de gens, et individuel, mais je crois au groupe malgré tout. C'est toujours paradoxal.
Toi, tu crois la somme d'intérêts individuels.
Des individus, oui. Parce que le collectivisme, on sait ce que ça donne aussi. Dans l'histoire.
Non, mais parce que ça a été détourné.
On parle de l'intérêt collectif.
Voilà.
On parle de l'intérêt collectif.
Oui, mais alors, il y a toujours des gens en haut de l'État, toujours. oiseaux en haut de la pyramide qui veulent faire votre bien. Hein. On va faire votre bien, ne vous inquiétez pas, tout le monde aura du boulot, tout le monde aura à manger. Oui.
Oui,
on le sait, n'empêche que ça fait des millions de morts, ces histoires-là, quoi, quand même. Hein.
Et toi, Marie, alors, l'intérêt collectif avant l'intérêt individuel ou la somme de l'intérêt individuel ?
Alors, il est évident pour moi qu'au point de vue, je ne sais pas, je n'ose pas dire le mot philosophique, mais c'est évident que l'évolution tendrait à un intérêt collectif. Or, on en est encore à l'âge des cavernes, puisque tu l'as évoqué tout à l'heure, on est sur le concept, par exemple, de on est tous très individualistes, moi la première, vous aussi ici, même si on fait des trucs de groupe, hein, il faut être honnête avec soi. Moi, j'essaye, quand je fais partie d'un groupe, j'essaye d'avoir...
une pensée collective, quoi, l'intérêt général.
Bien sûr, même si je suis derrière, j'ai tous mes trucs à moi. Maintenant, on fonctionne aujourd'hui sur un mode que tu as dit tout à l'heure, la notion de groupe primaire. Il y a un retour. C'est intéressant de regarder le truc
le
un
cocon,
peu...
À la famille, tu la veux famille. Dire.
Notre infect depuis 20 ans, retour au cocooning, à la famille, au machin, moi, ça me fait gerber. C'est une manière...
Ouais, mais moi, je n'ai pas cette impression-là.
Attention, je ne remets pas en cause la valeur familiale, le fait que...
La société n'a jamais autant explosé.
On le a pété, travail on a et pété, la patrie,
on a pété, on a pété intégralement la cellule familiale.
Non, on a pas pété, la cellule familiale a pété d'elle-même. Ça, c'est pas quelqu'un.
Non, elle a explosé
a
après les années. Elle a, non, mais j'ai pas dit quelqu'un. Après
c'est
les
la
années
faute 68, à 68.
Après les années 68-70, il est très clair que le contre-coup de 68 et 70, c'est vous voulez être libre et vous voulez être individu et vous voulez machin. Pas de problème, tout le monde a le droit de consommer. Par contre, tout le monde a le droit de taffer.
Et de jouir sans entrave.
Et tout le monde a le droit d'aller taffer. Et tout le monde a le droit. Et résultat de quoi ? Il n'y a jamais eu autant de divorces, il n'y a jamais eu des couples qui tiennent. Les
tout
couples
à fait,
ne tiennent
mais
5 ans ensemble.
Paradoxalement, il y a l'apologie de l'idéal de la famille. Quand vous regardez une pub, c'est quoi ?
Ah mais ça, c'est de la doctrine d'extrême droite, c'est autre chose, ça.
Ah bah écoute, alors il faut croire que tout notre système est d'extrême droite. C'est papa, maman, les enfants. Attends,
nous
moi,
avons une grosse
plus,
remontée, mais Sarkozy a initié ça avec la valeur travail, parce que derrière le
mais
fameux travail.
Mais arrêtez de balancer
plus...
surtout sur Sarkozy.
Attends, non, mais je vais
te
dire pourquoi je balance sur Sarkozy, parce que l'air de rien, derrière cette petite doctrine qui a l'air de rien du tout, travailler plus pour gagner plus, qui a l'air d'être une évidence, c'est la notion du travail et des feignants qui a été remise en valeur. Et derrière, on a la remise en question du religieux. Et derrière, on a la remise en question travail, famille, patrie. Si ça, c'est pas...
Ah ben, c'est pétain.
Si ça, c'est pas craignos, je veux dire, je suis obligé
non,
de...
Non, mais oui, c'est super craignos. Voilà, mais le problème, c'est qu'aujourd'hui...
C'est bien Sarkozy, ça.
Dans l'ambiance qu'il y a, cette histoire de cocooning, on est tous, la tête la première, dedans, à protéger sa cellule primaire. Pour moi, la cellule primaire... Et alors, c'est là où c'est paradoxal.
La famille.
Ouais. Qui est la famille et qui est une bonne chose. Mais rester, c'est l'individualisme, c'est mon clan, ce sont mes gènes. On a vu que c'était intéressant l'origine du mot gentil.
Ouais.
Ça voulait dire le peuple, en fait. Ouais. Hein, très intéressant.
Les gens, ça vient du mot gens, du groupe, justement.
Oui, ouais, qui veut dire.
C'est hallucinant. On cherchait, on parlait de gens gentils, et en regardant l'étymologie, effectivement, on est tombé là-dessus. Gentil, c'est le groupe qui fait partie du groupe, au départ.
Voilà,
au départ,
c'est mon clan.
Oui, alors que c'est devenu un peu con-con, quoi.
C'est devenu n'importe quoi. Après, c'est devenu les païens. D'abord les non-juifs, après c'est devenu les païens.
Et ah oui, aller sur internet, ça vaut le coup.
C'est
là, on a
passionnant.
Fait une recherche qui était
allez voir
très drôle.
Qui sont les gentils, vous tapez gentils, vous regardez, c'est marrant.
Ouais, c'est vraiment marrant.
Marie, excuse-moi.
Oui, non, mais parce que c'est un peu compliqué ce que j'essaie d'exprimer. C'est que la notion, on parlait d'individualisme et de groupe, eh bien, protéger son clan, c'est donc... C'est le retour à la cellule primaire, on va protéger sa famille.
Ouais, c'est ça, ouais.
C'est l'antithèse, tu disais, est-ce qu'il faut mieux avoir un truc collectif ou individuel, etc. C'est... l'antithèse, en fait, du collectif.
Mais je ne suis pas d'accord du tout.
Ah ben moi, je ne
peux pas te laisser dire
d'accord.
Ça.
Pourquoi je suis d'accord. Pourquoi je suis super d'accord.
Tu es d'accord avec toi-même, c'est bien.
Ça. Parce que je vais protéger, donc, comment
ma fille,
suite,
mes
ma
filles
fille,
plutôt que mes voisins,
non, mon
etc.
père, ma mère plutôt que mes voisins.
C'est
depuis
Le Pen.
La caverne, on n'a pas fait, donc, aucun progrès. Je ne dis pas que je ne le ferai pas, évidemment.
Non, attends,
que demain, je vais protéger, parce que ça va être les gens, peut-être, que je vais aimer le plus. Mais c'est quand même, au point de vue évolutif, c'est zéro.
Mais
quoi.
Attends, c'est zéro si tu ne fais que ça. Après, moi, je te pose la question autrement. Moi, je suis assez d'accord avec Gilles sur la somme d'intérêts individuels. Pourquoi ? Parce que je pense qu'on est capable d'aller vers le collectif quand on va bien d'une façon individuelle et qu'on est bien dans le collectif quand on va bien tout seul.
Voilà,
les gens qui vont dans le collectif pour se sauver la mise en tant qu'individu, c'est une catastrophe et ça fout la merde dans les associations. Ça, c'est l'expérience qui parle, donc il n'y a aucun problème là-dessus. Donc si tu veux, moi je crois que non,
mais
ça n'a rien de honteux.
Attends,
ça n'a rien de honteux de protéger.
Je
alors,
dis que c'était honteux.
On peut dire qu'il y a un instinct, entre guillemets, primitif, voire de conservation, si on veut pousser un petit peu, dans le groupe, qui consiste, quand les choses vont mal, à avoir envie de de protéger en priorité la cellule familiale. Parce que ce qu'il faut quand même préciser, c'est que tout ce que tu viens de définir n'est valable que mis en parallèle avec la crise, d'une façon générale, idéologique avant d'être financière. Hein. Bon, la crise, finalement, c'est quoi ? Avant d'être une crise financière, c'est une crise, il n'y a pas de grand dessein. C'est-à-dire que la notion collective, la notion idéologique d'évolution ensemble dans une direction commune qui fait bander tout le monde... Ça fait belle lurette que depuis Mitterrand, personne n'a compris ce que ça voulait dire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on renforce l'intérêt individuel, donc il ne faut pas s'étonner qu'après, l'individu aille défendre, se resserre dans un espèce de réflexe de contraction
parce que tu sais
défendre la cellule familiale. Mais ce n'est pas forcément négatif.
Pourquoi est-ce qu'il y a les intérêts individuels, etc. Parce que ça, c'est un des travers de notre société de consommation, où consommer plus, c'est-à-dire posséder plus que le voisin, c'est ça le synonyme du bonheur.
Non, mais ça, d'accord. D'accord, alimenté par la pub et tout. Mais Marie, c'est pas si simple. Moi, je vais te dire, on peut avoir des ambivalences.
Et on ne souffre pas assez pour être idéologique. C'est là où on repart sur la notion où il faut avoir un ennemi ou une cause contre laquelle lutter. On est dans un truc de petit bourgeois, chez nous, hein, bien sûr, en Occident, où on n'a plus suffisamment de raisons individuelles de gueuler. Voilà.
On a mangé, bon ça c'est sûr que c'est un paramètre, c'est un paramètre important. Maintenant je voudrais revenir à ce que tu disais juste avant, je peux pas arrêter là-dessus, c'est pas possible. Il y a un moment, il faut accepter qu'on a une dualité. On fonctionne pas, on n'est pas des gens noirs ou blancs. On est gris tous, qu'on le veuille ou non, on est tous gris. Et on est gris pourquoi ? Parce que au fond de chacun d'entre nous, il y a l'envie de protéger la cellule familiale prioritairement, et de l'autre côté une nécessité absolue de partager un certain nombre d'expériences avec le groupe. Et donc on peut se retrouver dans des situations, et c'est plutôt bien de l'avoir assumé, parce que tant qu'on ne l'a pas assumé, effectivement, on peut galérer pas mal et puis se chercher pas mal, mais d'arriver à dire, moi je suis quelqu'un, tu vois, dans le sens noble et pas dans le sens politique, qui se sent totalement libéral. Dans le sens libéral, c'est-à-dire qui défend l'autorisation et la liberté pour l'individu de viser son propre développement, avec un argument fondamental qui est qu'avant de vouloir rendre service à la collectivité, il faut commencer par vouloir ne pas nuire à la collectivité. Et qu'à mon avis, si on devait définir un petit peu, tu vois, ce qui faisait la différence, la somme d'intérêt individuel, oui, une somme d'intérêt individuel, mais le groupe, il commence où ? Il commence par la fameuse phrase, et à mon avis, celle-là, elle est fondamentale, c'est celle qui dit « la liberté des uns commence là où s'arrête celle des autres », c'est-à-dire s'arrête où commence celle des autres, pardon, c'est l'inverse. C'est-à-dire que grosso modo, toi, tu t'interdis dans ton développement personnel d'aller marcher sur la gueule des autres. Et à mon avis, la notion de groupe, elle commence là.
Non, mais ça c'est ok, mais ça c'est
ne pas nuire.
Ne pas nuire.
Déjà, c'est
mais
énorme.
Excusez-moi,
déjà.
Moi j'avais plus d'ambition pour l'être humain que ça, quoi.
Alors,
franchement,
c'est une belle introduction pour la suite. C'est une très belle introduction pour la suite. L'être humain, c'est bien beau l'être humain, mais finalement, on regarde dans les associations, on regarde dans les partis politiques, on a toujours cette espèce de schéma qui finit tous par nous gonfler. Soit on se fait emmerder par un chef, un gourou. Alors dans les chefs, évidemment, il y en a plein. Hein. Il y a le potiche, il y a celui qui est là uniquement parce qu'il peut tirer la secrétaire, il y a celui qui est là parce que ça lui donne plein de pouvoir alors qu'il n'en a jamais eu dans sa vie, il y a celui qui est là parce qu'il peut détourner des thunes.
Par défaut, voilà. Parce qu'il n'y avait personne d'autre qui voulait prendre le manche.
Par défaut, parce qu'il n'y avait personne d'autre. Bon, le gourou, le chef, est-ce qu'on peut éviter dans un groupe, Marie, c'est un débat qu'on a eu aussi pendant la préparation, dans une structure humaine.
Alors, on n'est pas du tout d'accord sur le sujet.
Dans une structure humaine, est-ce qu'on peut éviter, est-ce que l'on sait s'organiser autrement que d'une façon pyramidale avec un chef et des gens qui...
des sous-chefs.
Des sous-chefs ou des gens qui suivent les ordres, entre
guillemets. Des papes et des sous-papes.
Marie.
Excuse-moi, je ris.
C'est gentil, des
papes et des soupapes,
c'est gentil,
hein,
leur voilà. Fait plaisir d'avoir ri.
Non, non, moi je ris de bon cœur, hein, l'esprit potage de Gilles que j'aime beaucoup. Bon,
voilà. Merci,
alors,
merci.
Pour moi, il est évident qu'il faut un groupe, qu'il faut qu'il y ait un chef. Alors vous hurlez parce que vous êtes toujours
enferré
dans des mots. Si vous allez le faire,
mais
non,
faut stériliser les chefs,
si je
pour
disais,
pas qu'ils se reproduisent.
Voilà, le chef, et vous êtes le chef.
Non, exprime-toi, qu'est-ce que tu veux dire sur le chef ?
Pour moi, donc, le cap, on va dire un mot anglais encore une fois,
la péninsule.
Leader, le cap, la péninsule, voilà, ce rock, etc. Il faut bien qu'il y ait quand même quelqu'un. Alors, il y a deux notions dans un groupe. Il faut qu'il y ait quelqu'un. Comme on est tous des individus dans un groupe, il faut qu'il y en ait un à un moment qui soit désigné pour que ces décisions ne soient pas remises en question. Parce que sinon, on n'avance pas. Un groupe, chacun va avoir un avis différent. Mais ça commence très vite. Hein. Tu prends un groupe de 5...
La couleur du papier toilette, ça peut prendre 3 jours. Hein.
Voilà. Ouais. Et donc, on le voit dans des associations. Hein, c'est bon. S'il n'y a pas un mec à un moment à qui, mais qui a été désigné, c'est là...
Mais pourquoi il est désigné d'abord ?
Alors après, c'est là où peut-être...
Sur quels critères on désigne quelqu'un ?
Là, tu touches, c'est le truc qui coince.
Ah ouais.
Alors, soit il est élu, soit il monte et il s'impose, il y a des putschs, il y a des choses
comme ça. Mais comment ça se passe les 3/4 du temps ? C'est celui qui te chape le mieux ? Celui qui est le plus facile,
celui qui a la plus grande bouche,
qui est un peu organisé, qui a de la bouche.
Comme, exactement comme en politique, ça on en a parlé.
D'accord.
En fait, aujourd'hui, ce qu'on a, ce ne sont pas des chefs. Un chef en général, un bon chef, globalement, de nos expériences personnelles, on ne l'entend pas, le bon chef. Il va prendre les décisions pour l'intérêt collectif, parce que lui, il ne se regarde pas le trou du cul. Donc c'est un mec qui n'a pas un gros ego, un chef, un bon chef.
Donc éventuellement un mauvais orateur.
Par contre, un très mauvais orateur.
Éventuellement un mauvais orateur.
Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire ? Eh ben non, on va prendre le gars qui se l'ouvre et qui paraît bien.
Dans une société de communication, c'est
des dirigeants qui sont tous donc avocats d'affaires.
Voilà.
Hein.
C'est des parleurs avant tout. Hein. Tu prends Montebourg avec les impétents et compagnie. On en a la démonstration.
Borloo, Sarkozy, ouais, enfin, voilà.
Ils sont tous avocats.
On prend des acteurs en fait. Hein. C'est plus
des marionnettes.
Ouais, enfin des marionnettes qui savent bien tirer leur épingle du jeu quand même.
Alors imaginons un chef élu, voilà, il est élu,
alors
il parle bien.
Vous n'étiez pas d'accord avec la notion de chef, vous vouliez une notion horizontale.
Je disais pas un chef, c'est pas vrai qu'on n'était pas d'accord sur le mot. Moi je te disais,
vous
pas un chef.
Comment vous êtes bloqué, hein, il y a
on
des
peut en
mots.
Placer une, Marie,
mais je demande la
tout.
Parole.
On peut en placer une. Pas un chef, un coordinateur. Et je vais être très bref sur le sujet. Quelqu'un qui est là pour appliquer une idée collective. L'idée doit rester collective et l'application éventuellement peut-être un petit peu plus individualisé pour gagner en efficacité. Mais il est impératif que ça parte sur la base d'une idée collective, c'est quand même la base de la démocratie. Qu'après on restreigne le circuit de mise en application, ça paraît extrêmement cohérent, sinon on peut perdre beaucoup de temps. Gilles ?
Alors, moi je pense qu'on peut réfléchir à d'autres systèmes, d'autres organigrammes pour faire tourner. On nous a mis dans la tête cette histoire-là, il faut un homme providentiel ou une femme. Mais
Gourou.
Voilà, il faut un gourou. Attention sur le terme de gourou.
Oui, mais c'est exprès, je le fais exprès.
C'est très particulier. Un gourou peut avoir un sens extrêmement noble. Pour un hindouiste, un gourou, c'est un maître. Et c'est un maître que l'on respecte. Donc, attention.
Que l'on suit.
Voilà, on en a fait maintenant des maîtres sectaires, des
bon, alors,
chefs
dans le
sectaires.
Sens péjoratif du terme, voilà.
Voilà.
Un gourou.
Je pense qu'on peut fonctionner autrement. J'ai pas... Petite expérience perso, par rapport à la radio, par exemple, hein, je parle de ce que je connais. La radio n'a jamais si bien fonctionné lorsqu'il y avait un président qui était, je dirais, un peu le fond, l'idéologue, quelque chose comme ça.
C'est ça.
Et deux personnes, ce qui étaient Nicole et moi à l'époque, hein, on était trois et on s'entendait extrêmement bien parce que les choses étaient très bien
chacun
définies.
Dans son domaine de compétences,
chacun
en plus.
Chacun dans son domaine. Et il n'y avait pas de chef. À proprement parler, si tu veux. Il n'y avait pas de chef à ce moment-là. Chacun savait ce qu'il avait à faire, prenait ses... Et quand on avait le doute, on en parlait et ça se prenait à... c'était évident, quoi. Quand on prenait une décision, c'était plus un mec tout seul. C'est dur d'être chef, tu sais, c'est dur d'être un seul responsable.
Mais j'ai pas dit que c'était
facile. T'en prends plein la gueule.
Voilà, tu en prends plein la gueule. Donc au bout d'un moment, qu'est-ce qui se passe ? Le mec, quand il en a marre d'en prendre plein la gueule, il décide et il devient un petit tyran. C'est la déviance classique.
Comme on l'a vu tout à l'heure quand Gilles m'a coupé la parole, voilà,
Gilles Boulrouille, il faut le préciser.
Gilles Boulrouille, extrêmement bon orateur, et voilà.
Non, mais...
ne suis qu'un orateur, d'ailleurs.
Ouais, non, mais en dehors de ça, c'est vrai que souvent, c'est les beaux parleurs qui prennent le pouvoir.
Et... Mais ça se fait inconsciemment, en plus.
Oui,
hein.
oui, mais c'est là où il faut avoir... Alors, tu connais le principe de Peter, on est tous hissés à un moment donné, quoi qu'il arrive...
À sa limite de compétence.
À son niveau d'incompétence. Ouais. Donc, il faut être conscient de ce truc-là, et peut-être refuser, justement, de devenir le chef ou le petit chef, et de déléguer, et de trouver, de partager le pouvoir. Si jamais il n'y a qu'une seule personne à la tête, il y a des déviances de tyrannie qui sont potentielles.
Alors d'abord, premièrement, on peut faire un résumé à ça et dire, ça vous pouvez en être certain, le pouvoir n'est jamais dans la représentation. Ça c'est une certitude. C'est pas celui qui représente qui a le pouvoir, contrairement à ce qu'on pense. C'est toujours ceux qui sont dans l'ombre et qui donnent les idées à celui qui représente. Ça c'est le premier aspect. Deuxième aspect important peut-être, on se demande très souvent, est-ce qu'on peut encore faire des choses collectives aujourd'hui ? Oui. Le seul problème à mon avis, c'est qu'il y a un problème d'échelle. C'est-à-dire que nous sommes tous dans une logique où évidemment, devant la difficulté qui nous pète dans le nez tous les jours, avec ce qu'on peut voir, avec la crise, mais cette crise morale autant que idéologique que financière, on s'en fout d'ailleurs qu'elle soit financière, elle est avant tout morale et idéologique, cette crise. C'est-à-dire que c'est un système qui se casse la figure. On est d'autant plus tenté de globaliser les réponses qu'on essaie d'y apporter. Et donc, au lieu d'essayer de faire les choses d'une façon modeste, on se rend compte très souvent que l'on se surprend tous, pour peu qu'on soit un peu intéressé à la politique ou à ces choses-là, à avoir tout de suite des solutions que l'on voudrait planétaires. Alors moi, je voudrais ramener un concept. Il nous reste une minute, très brièvement.
À peine
une minute. Vous dire que oui, il y a encore des possibilités de faire des choses collectivement. Simplement, il faut intégrer le concept de modestie et intégrer que quelqu'un qui, à l'échelle individuelle, va changer dans son comportement des choses bénéfiques à la collectivité, il aura réussi sur les deux tableaux.
Voilà, classique. Et tu veux changer,
ça
bon,
paraît,
change-toi toi-même.
Ouais, mais cette phrase, elle est quand même assez fondamentale.
Ah non, mais, oui, tout à fait.
Alors,
tous
les gens qui se demandent comment on peut changer les choses.
Je vais t'horrifier, c'est quand même un des trucs du discours chrétien, ça.
Ah bon ?
Et pourquoi pas,
oui. Tu voulais me tuer ?
On va faire.
Je t'embrasse, Marie.
Et ben voilà, tu me tends l'autre joue. Et ben voilà, et ben on fera une émission là-dessus.
Sur la chrétienté. Gilles, merci beaucoup.
Je vous embrasse tous les deux.
À la semaine prochaine.
Je vais le travailler en férocité, faire marcher à coups de latte. À ma pogne, je veux le voir. Et je vous promets qu'il demandera pardon. Et on garde à vous.
J'avais oublié. Il y a 10% d'amende. Pour le retard.
Il a osé me frapper. Il se rend pas compte.